Tête sur un mot de tête.
La web radio, pas prise de tête.
Bonjour et bienvenue à la Maison Espoir Victor Lastella pour cette émission spéciale de 100 mots de tête.
Effectivement, cher Boris, c'est une émission spéciale aujourd'hui, car nous avons délaissé nos locaux du GEM pour nous installer chez Jean-Michel, Zacharia, Nicole et Gilles, qui nous font l'honneur et le plaisir de nous accueillir dans leur Maison Espoir. Bonjour et merci à vous quatre pour cet accueil chaleureux.
Alors, au sommaire de cette émission, nous allons évidemment parler des Maisons Espoir, de leur histoire et de leur fonctionnement. Et pour cela, c'est Jeanne qui recevra Julie Canton, coordinatrice des Maisons Espoir, pour une interview.
Nicolas nous parlera du métier d'auxiliaire de vie avec ses invités Sandrine et Benoît, qui sont auxiliaires de vie ici dans cette Maison Espoir.
Et pour finir cette émission dans la bonne humeur, nous proposerons à nos hôtes un petit jeu avec une surprise à gagner.
Et n'oublions pas que tout le long de cette émission, nous aurons des interventions de nos amis Restez au GEM avec Catherine qui nous contactera par téléphone pour poser des questions à nos invités.
Voilà pour le programme de cette émission et tout de suite, nous allons donner la parole à nos hôtes. Alors Jean-Michel et Gilles, pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes arrivé à habiter en Maison Espoir?
Alors pour ma part, c'est Jean-Michel. Et ben moi, j'étais avant chez ma mère et il s'est trouvé que sa situation de santé n'allait pas avec le fait que je sois chez elle. Et il a fallu trouver un autre mode d'habitat pour moi. Et en se renseignant avec mon père, on a trouvé les Maisons Espoir. Et c'est super chouette parce que on a une colocation, on s'entend plutôt pas mal et ça reste humain et pas médical et pas enfermé quoi. Donc c'est chouette. Moi j'aime bien.
Et vous Gilles, pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes arrivé à habiter en Maison Espoir?
Moi j'ai trouvé ça toujours un endroit bien qui amenait beaucoup de choses dont j'avais besoin. Alors je suis venu. C'est très bien ici.
Pouvez-vous nous décrire votre Maison Espoir?
C'est un appartement fait pour accueillir des gens en situation de handicap. Et donc, par exemple, pour ma personne, il y a un rail au plafond pour pouvoir me transférer au lit et le matin me transférer au fauteuil. Donc c'est équipé pour les personnes en fauteuil. Et on a des auxiliaires de vie qui nous aident le matin et puis toute la journée. Le matin pour nous habiller, nous laver. Alors, ils ne le font pas à notre place, évidemment, mais ils nous aident. Et ça, c'est super. Parce qu'on n'est pas dans le milieu médical, on n'est pas à l'hôpital, on n'est pas dans une structure fermée. Et on habite un appartement commun, quoi. Voilà, et ça c'est chouette.
J'aime Maison Espoir.
Et d'après vous, quels sont les avantages et les inconvénients d'habiter en Maison Espoir?
Alors moi je dirais qu'il n'y a que des avantages, parce qu'on est dans un milieu qui sort du milieu hospitalier, et ça c'est bien. On vit comme des gens normaux, quoi. Avec des aides, les auxiliaires de vie, qui nous permettent de pouvoir nous habiller, de pouvoir nous faire à manger, etc. Et ça, c'est très bien. Et ça permet de mutualiser ces aides, le fait qu'on soit plusieurs dans un appartement, et ce qui fait que le coût est moindre pour tout le monde, quoi. Et moi, je trouve ça superbe parce que ça nous fait garder beaucoup d'autonomie et ça change du milieu hospitalier, quoi. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, avant de venir ici, j'étais dans le milieu hospitalier et à la fin, j'en pouvais plus, quoi. Manger à 6h moins quart, se coucher à 8h moins quart.
Le problème que je trouve, c'est que nous avons un ascenseur qui permet de passer Du reste, je sais pas. C'est-à-dire l'extérieur. Au rez-de-chaussée haut, l'étage où nous sommes. Ce qui fait 8 marches. Et quand l'ascenseur est en panne, on peut pas rentrer ni sortir. Alors qu'il y aurait moyen d'avoir une pente. Là, à droite, qui voudrait de prendre l'ascenseur. Et déranger les pompiers.
Alors merci, nous allons maintenant passer à l'interview de nos invités avec Jeanne. Jean-Michel et Gilles, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir. Jeanne, à toi la parole.
Merci Boris. Alors, pour parler des Maisons Espoir, nous avons souhaité inviter Julie Canton, qui est animatrice et coordinatrice des Maisons Espoir et participe à leur fonctionnement au quotidien. Bonjour Julie.
Bonjour Jeanne, bonjour tout le monde.
Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une Maison Espoir ?
Jean-Michel et Gilles ont déjà donné beaucoup d'éléments de réponse. Pour faire assez simple, effectivement, les Maisons Espoir, ce sont des habitats partagés que l'AFTC a monté il y a déjà quelques années. Il y en a 3 à Grenoble. Et le principe, c'est que ce sont des colocations pour des personnes qui ont un traumatisme crânien et ou une lésion cérébrale. Les personnes ont décidé de venir habiter en coloc avec d'autres personnes qui rencontrent peut-être les mêmes difficultés qu'elles dans le quotidien. Et ce mode de vie, ça permet de... peut-être de partager des moments de convivialité, d'être dans une forme de solidarité les uns avec les autres.
Pouvez-vous nous raconter en quelques mots comment sont nées ces Maisons Espoir ici en Isère ?
Alors ça remonte déjà à de nombreuses années. C'est à partir de 2005 qu'il y a eu une vraie réflexion parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient touchées par le traumatisme crânien et la lésion cérébrale, qui n'avait pas de solution quand il sortait d'un long parcours hospitalier. Jean-Michel en a beaucoup parlé tout à l'heure. Il a fait référence à ses années à l'hôpital qui étaient compliquées. Et les personnes, à l'issue de ces périodes d'hospitalisation, ne pouvaient pas forcément reprendre la vie d'avant. Et en même temps, n'avaient pas envie, dans leur nouvelle vie, de se retrouver dépendants chez leurs parents ou dans des structures qui ressemblent plutôt à des choses hospitalières. C'était pas ça, en fait, leur envie. Leur envie, c'était de retrouver un chez-soi et de reprendre la vie la plus ordinaire possible, bien sûr, en tenant compte des difficultés éprouvées au jour le jour. À ce moment-là, il y a une famille qui était adhérente de l'AFTC qui s'est dit « on a un peu d'argent, on a beaucoup de volonté et on a un fils lourdement handicapé et on va essayer de monter un projet pour lui ». Et c'est là que beaucoup de gens se sont réunis dans le réseau Espoir, d'où le nom des Maisons Espoir, et ont créé la première maison à Grenoble en 2011. Première maison, ensuite il y en a une deuxième en 2012 et une troisième en 2013. Et les deux autres, on les a fait grâce à des partenariats avec des travailleurs sociaux qui nous ont permis d'avoir des grands appartements avec des grands espaces de vie qu'on puisse aménager pour des personnes avec des fauteuils.
Comment ça fonctionne au quotidien, une Maison Espoir ? Quels sont les services et les activités proposées ?
Alors, une Maison Espoir, comment ça fonctionne ? Déjà, il y a 3 Maisons Espoir et chacune fonctionne différemment l'une de l'autre parce qu'en fait, elles fonctionnent en fonction du rythme de vie des gens qui y habitent. Donc, dans des maisons, les gens se lèvent tôt, dans d'autres maisons, les gens se lèvent tard. Chacun fait aussi à son envie, à son rythme. Et c'est là tout l'intérêt, c'est que des auxiliaires de vie sont là au quotidien, du matin jusqu'au coucher, pour répondre aux besoins de chacun et faire en sorte qu'on se lève quand on en a envie ou alors parce qu'on a une activité ou quelque chose de prévu en extérieur. Après, quelles sont les activités proposées ? En fait, il n'y a pas d'activité proposée à proprement parler dans les Maisons Espoir, puisque les Maisons Espoir, finalement, c'est des logements de droit commun. Les activités, pour chacun, elles vont se faire en extérieur des Maisons Espoir, parce qu'on a envie de faire de la boxe, parce qu'on a envie de faire d'aller à la salle de sport, d'aller à la piscine, parce qu'on veut aller au cinéma, parce qu'on veut boire un coup en ville. En fait, chacun fait ses activités, accompagné par des auxiliaires de vie, quand il en a envie.
Merci. Comment sont attribués ces logements ? Quels sont les critères pour y accéder ?
Alors, au niveau des critères, c'est vachement simple. Il faut être adulte et avoir moins de 60 ans. Alors, moins de 60 ans pour entrer, arriver dans la maison. Évidemment, comme on est chez soi dans une maison espoir, si on a plus de 60 ans, à un moment donné, eh ben, on reste chez soi. Hein. Il n'est pas question de mettre les gens dehors. Ça n'aurait pas de sens. Donc, le critère de l'âge, on en a parlé. Ensuite, bien évidemment, bah, c'est d'être impacté par la lésion cérébrale, forcément. Et puis, pour que ça fonctionne, il faut avoir envie de vivre avec d'autres gens. Parce que si on a envie de vivre tout seul dans son coin, ben, la colocation, forcément, ce ne sera pas adapté. Donc, il faut quand même avoir cette envie-là, je pense. Et ensuite, comment on y entre ? Les gens qui ont envie de rentrer dans les maisons espoir, ils vont contacter mon association, l'association de famille des traumatisés crâniens. Et en fait, ils vont simplement dire « Bonjour, moi j'ai envie un jour de peut-être pouvoir rentrer dans une maison espoir ». Moi, je réceptionne les demandes, je les garde au frais. Et le jour où il y a une place qui se libère, en fait, on étudie toutes les demandes des gens qu'on a reçues, sans critères d'ancienneté. Et on essaye de faire en sorte que ça puisse coller avec les colocataires qui sont déjà en place. Et puis surtout, c'est les colocataires qui vont rencontrer les différentes personnes et puis aussi qui vont dire ah ben, avec lui, on le sent bien, avec lui, on le sent peut-être moins bien. Parce que c'est quand même eux, les locataires des Maisons Espoir. Donc c'est eux qui décident.
Comment sont gérés les auxiliaires de vie des Maisons Espoir ? Quels sont leurs rôles ?
Alors déjà, comment ça fonctionne ? Il faut savoir que s'il y a des auxiliaires de vie qui interviennent dans les Maisons Espoir, c'est parce que chaque locataire a eu un plan d'aide au niveau de la compensation de sa situation de handicap où la maison de l'autonomie en Isère a dit pour telle ou telle personne, on va accorder 2 heures de temps, 5 heures de temps, jusqu'à 24 heures de présence d'une aide à domicile pour l'aider dans les gestes de la vie quotidienne. Ce qui est assez chouette dans les maisons espoir, c'est que du coup, il y a une mutualisation de ces aides-là. Et quand on a un auxiliaire de vie qui vient, bah, par exemple, pour Jean-Michel, sur les heures financées pour Jean-Michel, eh ben, en fait, il peut aussi donner un coup de main pour Gilles et inversement. C'est ça, la mutualisation. Et quand, à un moment donné, pour Jean-Michel, il va y avoir besoin peut-être d'être 2 personnes pour une toilette qui est un peu plus compliquée, eh ben, l'avantage, c'est qu'avec les heures de Gilles, on aura 2 auxiliaires de vie en même temps qui, du coup, se feront un petit peu moins mal au dos pour aider Jean-Michel pour sa toilette. Voilà, c'est des exemples concrets. Ensuite, les auxiliaires de vie, ils sont tous de la même association qui s'appelle Appui. C'est eux qui les embauchent, qui les recrutent, qui les forment quand ça n'a pas été le cas avant et qui essayent de les informer au jour le jour sur ce qu'est la lésion cérébrale.
Merci pour toutes ces réponses et tout de suite, nous allons prendre quelques questions en direct du GEM. Catherine, tu nous entends ?
Oui, Jeanne, je t'entends. Et bonjour tout le monde.
Bonjour Catherine.
Alors Catherine, je crois que les jeunes ont des questions à nous poser.
En effet Jeanne, ici on te demande si Julie sait combien il y a de maisons espoir en Isère et en France, et aussi s'il y a beaucoup de demandes pour ce genre de logement.
Les maisons espoir, concrètement, on va quand même redire les choses, c'est le nom qu'on a donné aux 3 habitats partagés que l'AFTC a développés. Donc ensuite, la question, c'est de dire, est-ce qu'il y a d'autres habitats partagés en Isère ? Et oui, je sais que certaines associations, si je ne me trompe pas, Envol Isère Autisme, a développé depuis 2021 plusieurs habitats partagés, donc spécifiquement pour des personnes avec autisme. La première a été créée à Voiron et les autres sont certainement en cours de développement. Et je pense qu'il y a d'autres dispositifs de ce type qui sont en train de voir le jour. Parce que oui, effectivement, il y a un vrai engouement aujourd'hui pour les habitats partagés. Car c'est une solution qui, effectivement, permet aux gens de vivre chez elles, de se sentir chez elles et de pouvoir trouver un environnement sécurisé par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent suite à leur handicap.
Catherine, vous avez une autre question pour nous inviter ?
Oui, merci Jeanne. Une autre question qu'on se pose ici, c'est combien ça coûte et comment sont financées ces maisons espoir ?
Alors ça, c'est une super question. Comme ce n'est pas une institution, La maison espoir, ça reste une colocation. Donc, comment on finance le loyer ? Bah, c'est simple, ils sont quatre à habiter dans cette maison-là, et ben, ils partagent le loyer en quatre. Pour les courses, aujourd'hui, le principe, c'est qu'ils commandent leurs courses sur le site d'un supermarché, et donc, ils partagent les frais des courses aussi. Mais demain, s'ils avaient envie de fonctionner différemment, et ben, ça pourrait être différent. Et par rapport aux aides à domicile, on l'a dit tout à l'heure, chacun a un plan d'aide. Et c'est du coup le département qui finance de manière individuelle les heures d'aide à domicile. Ensuite, vous pourrez vous poser la question, et toi Julie, comment tu fais, toi la coordinatrice, pour être payée ? Est-ce que c'est Jean-Michel, Gilles, Nicole et Zicaria qui te payent ? Non, heureusement, là ça coûtera un petit peu trop cher quand même. Donc, il y a une nouvelle prestation qui a été développée en France qui s'appelle l'aide à la vie partagée. Et ça, c'est vraiment une grande chose. Ça permet de pouvoir financer tout ce qu'on va appeler la coordination des habitats partagés. Et c'est ça qui permet de gérer tout ce qui est de l'ordre du vivre ensemble.
Voilà. Merci Catherine pour ces questions en direct du GEM. Pour terminer cette interview, pouvez-vous nous dire quels sont les projets de l'AFTC autour de ces maisons espoirs, et d'après vous, comment ces maisons espoirs vont évoluer dans l'avenir ?
Alors, aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de volonté d'ouvrir une nouvelle maison espoir, parce que ça fait déjà 3 maisons espoirs, ça concerne 12 personnes, ça reste un bon petit groupe qu'on n'a pas envie de développer plus. Après, ça sera peut-être plus compliqué pour nous de le gérer. Donc, on n'a pas d'idée de s'élargir. Par contre, dans les actualités des maisons, tout à l'heure, Jean-Michel expliquait que c'était des logements qui étaient prévus pour des personnes à mobilité réduite. Oui et non. C'est-à-dire qu'on a dans les chambres tout ce qui est nécessaire, les espaces de dégagement nécessaires, le matériel nécessaire. Mais par contre, dans les espaces communs, on avait une grosse imperfection, notamment sur les cuisines. On a aujourd'hui des cuisines qui ne sont pas du tout adaptées à des personnes en fauteuil. Donc si on veut vraiment développer l'autonomie, l'autodétermination, c'est important que chacun puisse aussi se faire son café, se faire à manger et se servir à boire. Donc là, à partir de fin 2023, on va commencer des travaux pour aménager chacune des 3 cuisines et rendre vraiment ces projets le plus logique possible avec la dynamique d'autodétermination de chacun.
Merci pour avoir répondu à toutes nos questions.
Oh, mais de rien, ce fut un plaisir.
Oui, merci à notre invité et bravo à Jeanne et Catherine pour cette interview. Avant de continuer nos interviews avec Nicolas et son invité, nous allons faire une petite pause publicitaire. Pub.
C'est juste un mot de tête.
La web radio, pas prise de tête.
Bienvenue à Jurassic Gem. Nous possédons un local au large de l'avenue Rhin et Danube. Nous avons consacré les 5 dernières années à la création d'une sorte de réserve bizarroïde.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un dinosaure ?
Le gémeur et l'homme, deux espèces séparées seulement par une lésion cérébrale.
Tu te rappelles de ce qu'on fait là ? Tous les grands parcs ont du retard.
Oui, mais au parc Astérix, il n'oublie pas les clients sur les manèges. Le PMR est là. Il faut y aller.
Pas tous à la fois.
Attachez vos ceintures. Plus vite.
Vite, vite, vite. Il faut y aller vite. Bienvenue à Jurassic Gem.
Savez-vous
quel est le point commun entre Nicolas, Luigi, Jeanne, Jean-Michel, Zacharia et les autres? C'est le groupe d'entraide mutuelle et il va changer leur vie.
Si tu retrouvais une chose à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment?
Il se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie.
Et lui, qui va s'en occuper?
Il a du mal à reconnaître le visage.
C'est vous? Mais si, c'est vous ça?
Après J'aime Résurrection, le nouveau film des J'aimeurs, le fabuleux destin du groupe d'entraide mutuelle.
Je le connais même pas.
Mais si tu le connais, souviens-toi.
Et si il changeait votre vie?
Bienvenue à bord du PMR 2273 en partance du GEM de Grenoble et à destination des vacances.
Nous vous rappelons de bien attacher vos ceintures et de ne pas déranger le chauffeur pendant qu'il conduit.
Je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose.
Ah bon? Bah, je vois pas quoi.
Tasnim!
Quoi qu'il arrive, je le défendrai.
Que faire quand on est handicapé et qu'on se retrouve seul la nuit au local du GEM? Maman, j'ai raté mon PMR. Le nouveau film de Boris Renslow.
Au GEM, on vous accepte tel que vous êtes.
Ne restez pas seul chez vous, venez au GEM.
Au GEM, on ne règle pas vos problèmes, mais on rigole bien quand même.
Le GEM, c'est le groupe d'entraide mutuelle. C'est une association de personnes lésées cérébrales qui se sont retrouvées après un accident de la vie et qui gèrent eux-mêmes l'association avec l'aide d'une animatrice et de bénévoles.
J'aime, moi j'aime le GEM.
Les conditions générales d'adhésion au GEM sont avoir plus de 18 ans et avoir une lésion cérébrale acquise. Le GEM est une association à but non lucratif, loi 1901, gérée par les adhérents eux-mêmes. L'adhésion est de 25 euros par an, tout compris. Une animatrice de grande qualité, juste et à l'écoute, est présente en permanence aux horaires d'ouverture, du lundi au jeudi, de 13h30 à 17h.
Ah, mais il parle vite, lui. C'est pas moi qui va faire ça.
J'aime, moi j'aime le GEM.
Vous êtes sans mots de tête.
La web radio, pas prise de tête.
Merci à nos annonceurs pour ces pubs.
Et surtout merci aux Gémeurs et à Ralette de l'atelier radio pour avoir écrit, enregistré et monté ces drôles de pubs.
J'aimerais bien voir Jurassic GEM.
Oui, c'est sûr, moi aussi. Mais tout de suite, c'est Nicolas qui reçoit Sandrine et Benoît pour une interview autour du métier d'auxiliaire de vie. Nicolas, à toi de jouer.
Merci Brigitte. Avec l'équipe de 100 mots de tête, on avait très envie de parler du métier d'auxiliaire de vie. Parce que c'est un métier que nous côtoyons au quotidien, mais aussi parce que c'est un métier qui est parfois déconsidéré, pas très valorisé et peut-être aussi mal connu. Alors, nous avons décidé d'en apprendre un peu plus sur le métier avec Sandrine et Benoît, qui exercent ce métier depuis déjà quelques années. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Sandrine et Benoît, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire ce que c'est qui vous a amené à faire ce métier d'auxiliaire de vie?
Bonjour, je m'appelle Sandrine. Ça fait 13 ans que je suis à Appuis. Et avant Appuis, j'étais aide à domicile à la DPA. Maintenant, c'est la DMR. Et ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est ma mère qui, à la base, était aide à domicile. Donc, durant mon enfance, des fois, à une reprise, des fois, comme elle était en CESU, des fois, elle m'emmenait avec elle chez une dame chez qui elle faisait du ménage et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir un peu ce métier et tout. Au début, comme je faisais des études, BEP secrétariat et tout, je ne me voyais pas faire ce métier-là forcément. Et après, ben, à un moment donné, vu que je ne trouvais pas forcément facilement du travail, j'ai commencé un petit peu ça en attendant. Et puis finalement, ben, ça m'a plu. Et puis après, c'est devenu ma raison. Enfin, c'est devenu vraiment ce qui correspondait à ma personnalité, quoi, ce qui correspondait le plus. Donc, pour faire ce métier, il faut aimer l'humain. Faut aimer être quelqu'un de sociable et puis faut aimer comment dire donner un peu de la vie à tout le monde quoi et puis pas regarder au niveau des heures parce que moi on peut commencer tôt le matin à 7h et puis finir le soir à 9h du soir donc c'est sûr après que c'est contraignant, c'est pas facile pour la vie à côté et tout. Mais après, on a comment dire, notre rendu, c'est dans les sourires des bénéficiaires ou voilà quoi. C'est notre rendu quoi.
Donc moi du coup, Benoît, donc je suis auxiliaire depuis presque 9 ans maintenant. Ce qui m'a fait travailler ici, en gros, je suis un peu arrivé par hasard dans le milieu du social parce que j'avais un parcours scolaire assez chaotique. Et en fait, c'est mon entourage qui m'ont un petit peu fait découvrir ce métier. Et je me suis rendu compte que j'avais une assez bonne facilité, un très bon contact avec les personnes en situation de handicap et ça me plaisait beaucoup. Et du coup, j'ai décidé de partir dans cette voie-là. Et en fait, j'ai atterri à Appuis, donc, comme je disais, il y a bien 9 ans. Et en fait, je n'avais pas prévu d'y rester à la base. Mais les années ont fait que je ne m'y suis plus. Et maintenant, je suis encore content d'être là aujourd'hui.
Pouvez-vous nous présenter ce métier et en quoi ça consiste ?
Ça consiste à accompagner les personnes dans tous les mouvements dans tous les gestes de la vie quotidienne. Donc le matin du lever, la toilette, donc les transferts. Donc on va utiliser selon les endroits. Là par exemple, là il y a un rail chez Jean-Michel, on va utiliser le rail. Des fois, si c'est à domicile, bon, ça c'est à part, ça bien sûr. Des fois, ça va être le verticalisateur ou bien le lève-personne, voilà. Et donc, il y a la toilette et tout. Et après, il y a aussi le repas. Et puis, il y a aussi les autres tâches aussi qu'on va faire. On va gérer un petit peu leur budget, donc un peu le budget du mois. On va, quand ils ont des achats à faire, tout dépend. Des fois, il y a un petit peu des consommateurs un peu de cigarettes, hélas. Mais donc voilà, il y a le budget un peu à ce niveau-là. Ou bien le budget aussi, des fois, de temps en temps, on va faire un peu les soldes pour quand ils ont besoin de vêtements et tout. Donc, on va leur acheter des vêtements. Il y a aussi, à gérer, il y a à côté des courses, il y a aussi la pharmacie. Donc là aussi, dès qu'il y a des renouvellements à faire, faire la pharmacie. Voilà, et enfin, il y a pas mal de choses à faire. Donc c'est vraiment, on est multitâche, faut faire pas mal de choses et vraiment, c'est intéressant, quoi.
Après, oui, un détail qui a son importance, et je crois que Jean-Michel en avait parlé tout à l'heure, c'est qu'on ne fait pas à leur place, on le fait avec eux. Les choses qu'ils vont pouvoir faire eux-mêmes, on va les laisser faire. C'est dans le but aussi, comme il disait, de garder une autonomie. Des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Certains vont se dire, bon, il est auxiliaire, il va peut-être pouvoir faire à notre place. Non, justement, on va un peu leur botter les fesses gentiment et leur dire, en fait, non, ça, tu peux le faire, donc... Tu vas le faire, je vais le faire avec toi, je vais t'accompagner, mais voilà, il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'on ne les remplace pas, on travaille avec eux et non pour à leur place. Si à un moment, peu importe, si Jean-Michel il a envie de dire, tiens, je vais aller voir s'il y a du courrier. Ben, on va pas être là. Bah, attends, j'y vais, reste là. J'y... Non, au contraire, on va dire, bah, tiens, prends les clés, je te passe les clés, vas-y. Et puis voilà. Ouais, on n'est pas là du tout pour les entraver s'ils peuvent faire les choses.
Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier et quelles sont les formations?
Alors, les qualités requises, c'est l'empathie, la patience, une dose d'humour aussi, parce que c'est quand même bien d'avoir de l'humour. Être quelqu'un quand même de fiable. Et moi, tout simplement, j'ai, comme pour le diplôme, j'ai passé le DEAVS au tiers de vie sociale. Donc, c'était avant le AES, accompagnement éducatif social, maintenant. Donc, voilà. Donc, j'ai passé ce diplôme au bout de 3 ans où j'étais avec appui. Donc, maintenant, ça fait à peu près 10 ans que j'ai le diplôme de tiers de vie. Et autrement, bah, bon, moi, je n'ai pas eu la possibilité, mais des fois, avant, les personnes passaient déjà par un CAP sanitaire social. Voilà, mais bon, maintenant, il y a... Voilà. Donc, moi, c'était juste DAVS au tiers de vie.
Alors moi, à titre personnel, c'est totalement différent, parce que quand je suis arrivé dans l'association, je n'avais aucun diplôme, même pas mon bac. Je n'ai pas mon bac. Et quand je suis arrivé donc pour l'entretien d'embauche, on m'a expliqué que ben ce n'était pas un problème, parce que des formations étaient proposées par l'association. Et par exemple, j'ai pu avoir sur les premiers secours, sur la posture au travail. Une formation pour tout type de handicap, parce que bon, après nous on n'intervient pas que dans les maisons espoir, mais aussi bon, pour tout le reste on a été formé pour ça. Mais par exemple pour les maisons espoir, voilà, on a eu moi personnellement j'ai eu une des formations pour le matériel tout simple, déjà de base, parce que un lève personne au début je connaissais pas du tout. Donc voilà, j'ai été formé, et voilà, on nous propose vraiment tout un panel de formations pour justement qu'on soit pas livré non plus à nous-mêmes.
Quelles sont les difficultés de ce métier et d'après vous, comment peut-on améliorer les conditions de travail des auxiliaires de vie?
Les difficultés. je pense, moi, là, la première difficulté qui me vient, c'est quand on ne connaît pas une personne et des fois qu'on ne connaît pas le handicap, c'est d'être confronté à une personne sans la connaître. Et même que ce soit même une personne qui ne soit pas en situation de handicap, ce serait pareil aussi. Quand on rencontre une nouvelle personne, on ne sait pas forcément comment la personne réagit à nous ou à autre. Au bout de certains temps de travail, voilà, on arrive un peu à s'adapter aux personnes. Et avec du dialogue, avec du temps, ça, c'est des choses qui s'arrangent. Après, en haute difficulté... Il y a souvent les horaires de travail sont des fois un peu compliqués, puisque on intervient chez des personnes, on intervient chez eux, donc c'est leur vie quotidienne. Et on peut intervenir très tôt le matin pour eux, donc ça veut dire que si on doit être par exemple à 7h du matin chez une personne, ça veut dire que nous en amont on est levé peut-être des fois depuis 5h du matin pour nous être en bonne condition de travail. Et si on termine chez une personne à 20h, 20 voire 21h, ça veut dire que après, il faut encore qu'on rentre aussi chez nous après, que nous aussi on mange, qu'on prenne notre douche aussi du soir et qu'après qu'on aille se coucher. Donc des fois, ça peut être assez tard et recommencer très tôt le lendemain matin. Donc ça, je dirais que c'est, à titre personnel, mon inconvénient le plus fort. Pour améliorer les conditions de vie des auxiliaires, ça, j'avoue que c'est une question que je ne me suis pas vraiment posée. Donc j'aurais pas de réponse dans l'immédiat.
Je dirais les difficultés aussi, quand on intervient surtout à domicile, c'est parfois chez les personnes, c'est pas aménagé pour leur handicap. Par exemple, moi j'ai une dame chez qui j'interviens et elle a une douche qui n'est pas adaptée, il n'y a pas la marche ou autre. Et là, après, ça devient compliqué. Des fois, on ne peut pas faire au mieux notre travail selon s'il n'y a pas l'aménagement qu'il faut, hélas. Et aussi, quand il y a des cas, des fois lourds, comme la sclérose en plaques, des fois, il y a des personnes, on peut à peine les tourner ou les toucher pour les laver. parce que ça leur fait mal. Et puis, comme aussi, il y a des fois un manquement de matériel et autres, et ben c'est aussi pas facile, quoi. Donc, des fois, la difficulté, c'est ça, le fait de faire au mieux, mais avoir l'impression que ce n'est pas encore le mieux possible, quoi. Donc, voilà. Et puis... qu'est-ce qui pourrait arranger notre manière de travailler à ce niveau-là? Je ne sais pas trop quoi répondre, parce que comme ce qu'il faudrait, ça serait des fois un peu plus d'aide au niveau du conseil général ou des choses comme ça, mais ça vient un peu de plus haut. Il faudrait plus d'aide pour pouvoir avoir plus de facilité pour que les gens ou qui ont droit au PSH et autres puissent pouvoir avoir accès à du matériel et pouvoir mieux emménager leur chez eux pour nous recevoir et tout, quoi. Donc voilà, quoi.
Quelles sont les joies et les moments de bonheur que vous avez vécu en pratiquant votre métier?
Des joies et des moments de bonheur, alors ça, ben, il y en a à peu près tous les jours, parce que moi, j'ai remarqué que souvent, bien souvent, les personnes chez qui on intervient, c'est des personnes qui ont beaucoup d'humour, qui sont quand même plutôt bien entourées. Et voilà, et justement, c'est pour moi, personnellement, c'est très facile d'oublier le handicap et vraiment de passer des interventions avec des personnes qui ont le sourire, qui ont la pêche. Et alors bon, pas forcément pas tout le temps, parce qu'il peut y avoir des jours, il y a des jours avec, des jours sans, évidemment. Mais pour moi, il n'y a pas une journée où il y a un moment où on va éclater de rire sur n'importe quoi, hein, sur une connerie qu'on peut dire, c'est n'importe. Et c'est même presque, je dirais, indispensable de chercher un petit peu ces moments, parce que voilà, justement, après, si on reste trop sur le handicap en disant ah bah comment ça va aujourd'hui, nanana, c'est pas, vous avez pas trop souffert, bah les gens non, bah en fait on les enfonce encore plus dans le mal-être. Alors que je pense que nous, au-delà de notre devoir, ce qu'il y a sur notre fiche d'auxiliaire, en fait, on a aussi ce côté, je pense que faut que l'humain ressorte un petit peu plus et avoir vraiment ces relations qui font que justement on passe de très très bons moments, et parce que sinon c'est vraiment morose et c'est pas intéressant.
Bah, les moments de bonheur, c'est tout simplement le matin quand on entend les bénéficiaires nous dire qu'ils sont contents de nous voir ou par exemple qui nous disent ah bah tiens, j'ai du mal à me souvenir de pas mal de prénoms, mais à un ou deux prénoms, tiens, ton prénom je m'en souviens, ou des choses comme ça. C'est plutôt positif, quoi, de s'en souvenir. Après, c'est aussi le travail en équipe, c'est tout, quoi. Depuis que je travaille au niveau de l'handicap et tout, j'ai une préférence à ce niveau-là que de travailler à domicile et tout, parce que des fois, à domicile, avec les personnes plus âgées ou en fin de vie, il y avait des moments où c'était plus difficile. J'ai passé des fois... assister à une fin de vie, c'était loin du bonheur, quoi. Mais là, maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours un élan de vie, donc c'est bien ça.
Merci à tous les deux pour ces réponses. Nous allons terminer cette interview avec une question en direct du GEM. Catherine, as-tu une question à poser à nos invités?
Oui, merci Nicolas. Et bonjour à Sandrine et Benoît. Ici, on aimerait savoir quels conseils vous donneriez à une personne qui souhaite faire ce métier.
Des conseils à donner, oula. Avoir la pêche, avoir la patate. Quelque chose qui n'est pas toujours facile, mais c'est laisser ses problèmes à la maison. Ça, c'est jamais facile, hein. Même moi, ce n'est pas toujours le cas. Et puis surtout, ne pas arriver à reculons dans ce métier auprès de ces personnes. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, au premier abord, un handicap peut paraître imposant, peut faire peur. Mais une fois qu'on passe au-delà du handicap, qu'on connaît la personne et qu'on peut passer toute une journée à rigoler, et ben, on se rend compte que en fait, on se fait beaucoup de soucis pour rien. Donc vraiment, ne pas trop se poser de questions et foncer.
Donc, pour faire ce métier, faut être quelqu'un de motivé et puis vraiment aimer l'humain et puis vraiment être dans la pêche, être positif, surtout pas être négatif, vraiment pas. Et emmener de la joie, emmener de la couleur, et puis voilà, et puis... Ah, puis c'est le seul métier où on peut chanter avec eux sans qu'on risque un renvoi, comme des fois dans des magasins où il y a quelqu'un qui chante et il se fait renvoyer. Ben non, là, on peut chanter sans se faire renvoyer. Voilà.
Merci à tous les deux pour votre témoignage et bravo à Nicolas et Catherine pour cette interview.
Avec plaisir.
Merci.
Et voilà le moment tant attendu, c'est l'heure du jeu.
Et oui, Boris. Alors, je vous explique les règles. C'est très simple. Nous avons choisi des mots mal connus de la langue française. Pour chaque mot, Jeanne, Nicolas et Boris et moi-même vous donnerons une définition. Évidemment, une seule de ces quatre définitions est la bonne. Nous avons distribué à nos hôtes et nos invités des pancartes Jeanne, Nicolas, Brigitte et Boris. Celui qui trouve la bonne définition en votant à l'aide de la bonne pancarte marque un point. Celui qui marque le plus de points remporte la partie.
Ah oui, c'est un genre de jeu d'udico spécial sans mot de tête.
C'est ça. Et attention, le gagnant recevra une œuvre originale magnifique à la valeur inestimable réalisée spécialement pour cette émission par Zacharia, l'artiste le plus connu du GEM. Alors, vous êtes prêts ?
Oui ! Oui, oui, oui.
Donc, le premier mot sera « tyrosée minophile ».
Écoutez bien les quatre définitions et dites-nous qui de Brigitte, Nicolas, Jeanne ou Boris détient la véritable définition de tyrosée minophile.
C'est un terme médical pour désigner un malade de la thyroïde qui produit une enzyme qui fait que cette personne finit par aimer tout le monde.
Non, pas du tout. C'est comme ça que l'on qualifie les spécialistes des tyrannosaures. D'ailleurs, on parle souvent des séminaires de tyroséminophiles.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Non, non, non. Un tyroséminophile, c'est juste un collectionneur d'images de boîtes de camembert, tout simplement.
Ah oui, parce que tu trouves ça simple. Non, croyez-moi, un tyroséminophile, c'est une personne qui préfère parler aux plantes plutôt qu'aux autres humains.
Alors, d'après vous, qui a donné la bonne définition de tyroséminophile ? Votez avec votre pancarte pour Nicolas si vous pensez que c'est un malade de la thyroïde. Brigitte, si vous pensez que c'est un spécialiste des tyrannosaures. Et Boris, si vous pensez que c'est un collectionneur de boîtes de camembert. Ou Jeanne, si vous pensez que c'est une personne qui préfère les plantes aux humains. Et c'est Benoît et Jean-Michel qui marquent un point.
Eh oui, un tyroséminophile, c'est un collectionneur d'images de boîtes de camembert. Bravo, il fallait évidemment voter pour moi. Et tout de suite, nous passons au mot suivant avec le mot Z et accent aigu.
Écoutez bien les quatre définitions et dites-nous de qui Nicolas, Boris, Brigitte ou Jeanne détient la véritable définition de zé.
Alors le zé, c'est un vent marin qui souffle très fort au milieu de l'océan par beau temps. Les Bretons disent d'ailleurs, le marin qui ne se fait pas surprendre par le zé fait un bon capitaine.
Tu crois nous berner avec tes faux proverbes ? Non, le zé, c'est un engin volant inventé par Léonard de Vinci et sur lequel il faut pédaler pour actionner les battements des ailes et s'envoler.
Oui, intéressant, tu as beaucoup d'imagination. Non, le zé, c'est un vêtement d'origine indienne qui est souvent bleu et qui est porté par les enfants quand il pleut. C'est un peu l'ancêtre du kawé.
C'est un peu tiré par les cheveux, cette histoire-là. Alors, les zé sont tout simplement des poissons de la famille des zéniodidés. D'ailleurs, je vous conseille le filet de zé au beurre d'orange.
Alors, d'après vous, qui a donné la bonne définition de zé ? Votez avec vos pancartes pour Nicolas et son vent marin, Brigitte et son engin volant, Boris et son vêtement indien ou Jeanne et sa famille de poissons. Et c'est Nicolas qui marque, Jean-Michel qui marque un point.
Eh oui, les ais sont une famille de poissons. Le Saint-Pierre en est un, par exemple. Il fallait bien voter pour moi.
Bon, on va faire un dernier mot pour vous départager. Alors, pour ce dernier mot, on choisit le mot « boustrophédon ».
Écoutez bien les quatre définitions et dites-nous qui de Nicolas, Brigitte, Boris ou Jeanne détient la véritable définition de boustrophédon.
Ah oui, j'aime bien ce mot. Un boustrophédon, c'est un terme péjoratif pour qualifier une personne un peu bête. Quelqu'un qui sera poursuivi par l'intelligence, mais qui court trop vite. Un genre de couillon magique.
Très drôle, mais pas très crédible. Non, c'est un type d'écriture archaïque utilisé par les Orientaux et les Grecs et qui imite les sillons tracés au sol. On lit une ligne dans un sens et la suivante dans le sens inverse.
Ça a l'air compliqué, ton truc. Non, en fait, le boustrophédon, c'est un type de dragon un peu idiot et néanmoins très dangereux. On en retrouve beaucoup dans les livres de Tolkien.
Non, pas du tout. Un boustrophédon, c'est un médicament qui booste le libido et il marchait déjà pas très bien. Mais maintenant, depuis l'arrivée du Viagra, ne se vend pas du tout.
Alors, d'après vous, qui a donné la bonne définition de boustrophédon ? Votez avec vos pancartes pour Nicolas et l'idiot, Brigitte et son écriture archaïque, Boris et son dragon ou Jeanne et son médicament. Et tout le monde marque un point pour ce mot.
Et oui, boustrophédon désigne bien un type d'écriture archaïque et c'est bien moi qui avais la bonne définition. En tout cas, bravo à tous et surtout à Jean-Michel qui gagne la partie avec 3 points.
Et oui, bravo à Jean-Michel, tu remportes cette partie, ainsi que le super cadeau, un magnifique dessin réalisé par Zacharia.
Il est temps de conclure cette émission et de prendre congé de nos hôtes. Merci à Jean-Michel, Zacharia, Nicole et Gilles de nous avoir reçus ici chez eux, dans cette belle maison pleine d'espoir.
Merci aussi à nos invités, Julie, Sandrine et Benoît, pour leur travail au quotidien et pour leur participation à cette émission.
Aujourd'hui, nous avions Nicolas, Jeanne et Catherine aux interviews.
Khaled à la technique.
Boris en présentateur.
Et Brigitte en présentatrice.
Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'ici.
Vous pourrez retrouver cette émission et plein d'autres podcasts sur www.lavoixdesgens.fr, rubrique sans mot de tête.
Merci et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci.
Merci. Merci. Sans mot de tête.
La web radio du GEM.
Moi, je vois que à 14 ans, je me suis branché. Je regardais les messages, les trucs de bruit là et tout. C'est impec. Avec la radio, ça nous a fait du bien.
Sans mot de tête, la web radio sans prise de tête.